France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Elle savait qu'elle risquait la mort et n'avait cessé d'alerter policiers et procureurs. La famille d'une femme tuée par son ex-conjoint assigne l'État en justice pour faute lourde. Une procédure rare dans les cas de féminicide. C'est France Inter qui vous le révèle ce matin. Le détail à suivre. Nos logements très largement inadaptés au changement climatique. Il faut changer de braquet. L'appel ce matin de la Cour des comptes dans son rapport annuel, majoritairement consacré donc à l'adaptation à la hausse des températures. Explication dans ce journal. Nous serons aussi en Corée du Sud où le gouvernement brandit le bâton pour faire revenir les médecins grévistes à l'hôpital. Parole de tatoués qui se sentent discriminés au travail. Et pour rassurer les riverains des JO, même la ministre des Sports s'y met.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui le directeur général délégué de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier.
France Inter.
Elle anticipait le pire.
Et le pire est survenu, malgré ses alertes multiples. Sandra, 31 ans, tuée par son ex-conjoint le 2 juillet 2021 à Bordeaux. Après 7 mois de harcèlement suite à leur rupture, l'un des 122 féminicides recensés cette année-là en France. Et si on vous en parle ce matin, 3 ans plus tard, c'est que la famille de cette jeune femme décide d'attaquer l'État pour faute lourde. Information France Inter. Ses proches estiment que la police, que la justice ne l'ont pas assez protégée, malgré donc, Delphine Evenou, de nombreux avertissements.
Entre janvier et juin 2021, Sandra tente désespérément d'alerter sur sa situation. Sa première plainte pour violence conjugale n'obtient aucune réponse pénale. La deuxième pour harcèlement est d'abord refusée au profit d'une simple main courante. Et entre-temps, sa demande d'ordonnance de protection est rejetée par la justice. Maître Elsa Crozatier, avocate de sa famille.
Il y a eu un dysfonctionnement clair de l'État. On n'a pas vraiment pris la mesure de la gravité des faits qui pourtant étaient clairement dénoncés. Elle a tout essayé, elle était toujours très explicite dans la gravité des faits et le fait que c'était de plus en plus harcelant. Il y a eu un crescendo.
Car plus la jeune femme tente de se protéger, plus son ex-conjoint la menace. Ses parents s'installent avec elle, Annie, sa mère.
Il lui criait dessus. Il disait « Tu peux pas me quitter, tu ne dois pas. Est-ce que tu veux terminer comme celle qu'on voit à la télé ?»
Le 30 mars, Sandra écrit au président et au procureur de la République « Je crains le pire des dénouements. » Sans réponse, s'indignent ses proches. Elle est tuée 3 mois plus tard par son ex-conjoint qui venait enfin d'être placé sous contrôle judiciaire sans que personne ne la prévienne.
« Ni la justice, ni la police n'ont fait quoi que ce soit. On s'est senti abandonnés. Nous avions peur. J'ai eu peur avec elle. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de douleur. Ma fille, c'est trop tard. Mais ce qu'a vécu Sandra, je pense que d'autres femmes le vivre. Et je peux pas rester les bras croisés.
L'assignation de l'État pour faute lourde est une procédure qui reste rare dans les dossiers de féminicide. Il faut souvent plusieurs années avant qu'elle n'aboutisse.
Quant à l'ex-conjoint de Sandra, il comparaîtra en fin d'année devant les assises de la Gironde. Ce récit est à retrouver plus en détail sur le site de France Inter. Toujours au chapitre judiciaire, toujours à Bordeaux, je vous parlais hier de ce procès des 5 incendiaires présumés de la grande porte de l'hôtel de ville pendant le conflit sur les retraites en mars 2023. Eh bien, les peines sont tombées dans la soirée. 6 ans de prison ferme pour la plus lourde contre un prévenu déjà condamné pour violence pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les autres prévenus écopent d'un an avec sursis à 2 ans ferme.
Il est 7h33 face au changement climatique. L'adaptation ne peut plus attendre.
Il faut désormais une stratégie claire de l'État et un chiffrage précis des efforts budgétaires que ça va nous demander. C'est le message ce matin de la Cour des comptes dans son rapport annuel. Des centrales nucléaires à l'agriculture, des rails de la SNCF au réseau électrique. La Cour s'est intéressée à 16 grands secteurs de l'économie, tous concernés, quelle que soit d'ailleurs l'ampleur de la hausse des températures, ils devront profondément s'adapter. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Et l'une des grosses inquiétudes de la Cour des comptes, elle concerne le logement.
Oui, déjà il y a un manque de chiffrage du coût de l'adaptation des logements, dit le rapport. Or, c'est un parc très majoritairement inadapté aux risques climatiques. Alors on parle de canicule, mais aussi de sécheresse qui provoque des fissures dans les bâtiments. 10 millions de maisons sont exposés. Or, pour l'instant, constate la Cour, la priorité du financement public va à la rénovation énergétique pour baisser les émissions de CO2, la fameuse prime rénov, et pas assez à l'adaptation. Autre risque majeur pour les logements, sur le littoral, le réchauffement climatique aggrave le recul du trait de côte. Il faut planifier des relocalisations, dit le rapport. Mais qui doit payer pour faire reculer les fronts de mer? C'est encore flou. La Cour réclame un dispositif de financement instituant une solidarité financière.
Et l'État, on ne peut pas dire qu'il donne l'exemple pour l'instant avec ses bâtiments publics.
Non, près de 200 000 bâtiments publics en France. Or, l'immobilier immobilier de l'État constitue un angle mort de la politique d'adaptation, dit le rapport. Il va falloir compter des dizaines de milliards d'euros de travaux et donc hiérarchiser les priorités. D'abord les populations les plus vulnérables, adapter les crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite qui se transforment parfois en sauna l'été. Et il faut anticiper, sinon, dit le rapport, gare au risque de maladaptation. Il cite l'exemple de la climatisation face aux vagues de chaleur. Si l'on en met partout en ville, comme elle rejette de l'air chaud, les températures vont devenir encore plus insupportables.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement sur Inter, merci. Le gouvernement doit justement présenter d'ici l'été son plan national d'adaptation au changement climatique. Adaptation nécessaire, mais contexte budgétaire très contraint, rappelle le patron de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il juge ce matin dans Les Échos la situation des finances publiques très préoccupante. On va y revenir plus largement avec Dominique Seux, l'édito Écho, juste après ce journal. Est-ce le début d'une nouvelle histoire apaisée entre la Corse et Paris? Après des mois de pourparlers tendus et 5 heures de réunion finale hier soir, le ministre de l'Intérieur et les élus nationalistes ont trouvé un accord sur la reconnaissance d'une autonomie pour l'île dans la Constitution. Le compromis prévoit aussi l'adaptation locale de certaines lois nationales. Alors ce n'est qu'une étape vers une révision constitutionnelle, mais elle est déjà majeure. On vous explique tout dans le journal de 8h. Sous pression, le Premier ministre haïtien Ariel Henry accepte finalement de démissionner. C'est ce qu'affirme ce matin le chef de la diplomatie américaine et le président de la communauté des Caraïbes qui étaient réunis en urgence pour parler de la situation sécuritaire à Haïti. Haïti où les gangs sèment le chaos dans les rues de Port-au-Prince depuis près d'une semaine maintenant. En Corée du Sud, les hôpitaux toujours paralysés par la grève massive des internes. Depuis 3 semaines, plus de 10 000 médecins en formation ont abandonné leur poste pour protester contre la réforme des études médicales. Et face aux conséquences déjà majeures pour les patients, le gouvernement durcit le ton. Nicolas Roca, vous êtes à Séoul pour Inter. Les autorités viennent d'annoncer la suspension d'une partie des grévistes.
Face à une crise hospitalière qui s'éternise, le gouvernement sort les grands moyens. Chen Pyong-wong, ministre adjoint de la Santé.
Le gouvernement envoie progressivement des notices de suspension aux médecins qui ont enfreint l'ordre de reprise du travail. Au 8 mars, 4944 personnes ont été notifiées.
Les médecins démissionnaires ont jusqu'au 25 mars pour apporter une réponse aux autorités qui promettent l'indulgence à ceux qui reprendront le travail. La réponse du leader de l'association des médecins coréens, Cho So-hoo, ne s'est pas fait attendre.
Les 130 000 médecins du pays resteront unis pour garantir qu'aucun démissionnaire ou étudiant en médecine refusant d'assister aux cours n'ait à souffrir des conséquences de leur mobilisation. Nous agirons ensemble, de toute notre force, pour résister au gouvernement et défendre le système de santé coréen.
Un bras de fer dont les premières victimes sont les malades, selon Choi Hae-jung du Conseil des droits des patients atteints de cancer.
La situation actuelle place de nombreux patients en danger de mort à cause de reports des opérations, des chimiothérapies ou de l'accueil aux urgences.
Pour tenter de pallier le manque de médecins, le gouvernement a réquisitionné près de 150 docteurs venus de l'armée ou de centres de santé publique. Nicolas Roca, Séoul, RFI pour France Inter.
La Corée du Sud, le saviez-vous, seul pays développé où les tatoueurs n'ont pas le droit de tatouer. Cette pratique est réservée là-bas aux seuls professionnels de santé. En France, le marché est bien plus libre et le tatouage ne cesse de se développer. Près d'un tiers des jeunes y ont succombé, un phénomène de mode qui se décline aussi désormais en émissions télé quotidiennes sur la chaîne RMC Story. Pour autant, au quotidien, Laurent Kramer, le tatouage est loin d'être accepté partout, notamment au travail.
Le tatouage, phénomène massif chez les moins de 35 ans, confirme David, patron du salon Tattoo Mito à Paris.
Les 3 dernières années, ça a boosté vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de jeunes, il y en a qui en ont 12, 15, 20 petits tatouages, c'est la mode.
Dans ce salon parisien, Laura est venue faire un discret tatouage sur l'épaule.
Moi, je suis dans l'esthétique et je sais que tout ce qui est avant-bras, malheureusement, c'est des zones où je ne peux pas le faire parce qu'on travaille en t-shirt l'été.
Son employeur a été très clair sur le sujet.
Vous ne faites pas tatouer tant que vous êtes chez moi. Vous le ferez quand vous serez parti, quoi. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, du coup, c'est parfait. Je pourrais faire les avant-bras maintenant sans problème.
Chercheur en sociologie du travail, Vincent Meyer a mené une étude auprès d'employeurs. Quelle perception ont-ils de candidats tatoués lors d'entretiens d'embauche, ils tiennent souvent un double discours sur le sujet.
Les gens diront jamais « je vais vous discriminer parce que vous avez des tatouages », mais ils vont associer des stéréotypes négatifs, que ce soit un manque de sérieux, de professionnalisme, qui va influencer, biaiser le choix de recrutement. On voit qu'un tiers des gens qui sont tatoués déclarent avoir été victimes de remarques désobligeantes liées à leur tatouage. Donc le tatouage n'est pas un problème tant qu'il n'est pas visible.
Un rejet du tatouage particulièrement marqué dans le secteur de la banque, des assurances ou toutes les grandes entreprises, constate le chercheur.
Après les mésaventures vécues par plusieurs de ses clients, Airbnb décide d'interdire toutes les caméras de surveillance à l'intérieur des logements loués sur la plateforme. Jusque-là, elles étaient autorisées dans les couloirs ou le salon uniquement, mais des utilisateurs du site affirment avoir découvert des caméras cachées dans d'autres pièces où l'intimité est censée être respectée. Airbnb et ses prix parfois hallucinants pour la période des JO cet été à Paris. Hébergement, transport, sécurité, les organisateurs des Jeux ont encore fort à faire pour rassurer. Alors il multiplie les réunions de concertation avec les riverains et même la ministre des Sports mouille le maillot, Amélie Oudéa-Castéra, hier soir dans le 15e arrondissement de la capitale pour répondre directement aux questions des commerçants de la Porte de Versailles. Emma Sarangoy était aussi pour Inter.
Dans un petit amphithéâtre, une vingtaine de personnes.
Bonsoir à tous, moi je suis contente d'être avec vous.
Et la ministre des JO, entourée de quelques experts.
Soyons parfaitement lucides là-dessus, c'est un immense défi.
Une présentation d'abord des pics attendus autour de la Porte de Versailles, jusqu'à 25 000 spectateurs en même temps l'été prochain. Certains écarquillent déjà les yeux.
Il y a même certains commerces qui envisagent de fermer carrément pendant la période des Jeux, compte tenu des difficultés de livraison et du manque de personnel.
Amélie Oudéa-Castéra tente de rassurer.
Dans la zone bleue, il n'y a pas besoin de QR code et on peut livrer dans les commerces de cette zone-là.
Puis vient une question en ligne d'un représentant de l'hôpital Pompidou.
Tout ce qui est évidemment un service médical d'urgence, là le but c'est circulation maximale.
À l'issue d'une heure et demie de réunion, certes dans le calme, on ne peut pas dire que tout le monde soit franchement rassuré.
Ça viendra par la suite. Pour le moment, il y a toujours des questions qui restent. On verra au moment où ça se passe.
Je les ai toutes faites depuis 3 mois des réunions. Et plus ça va, moins je suis rassuré.
Autour de la Porte de Versailles, aucune station de métro ne sera fermée, mais 2 stations de tramway ne seront pas desservies.
Et de son côté, la ministre de la Culture veut profiter, elle, des JO pour créer un lieu dédié aux grands sportifs issus de l'immigration au sein du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Rachida Dati l'a évoqué hier soir en lançant l'Olympiade culturelle, 2000 projets artistiques autour des Jeux.
Alexis Morel, merci. À suivre, Yael Gauss, Dominique Seux.